tous.
Je suis heureux de partager l'évangile avec vous ce matin. Nous avons vu dimanche dernier que Dieu nous aime malgré nous et que nous sommes invités à nous laisser aimer par Dieu. Mais pour que l'amour de Dieu puisse se manifester chez nous, nous avons besoin de nous approcher de lui, même timidement, sur la pointe des pieds. Et cet amour ne peut pas se manifester si nous lui tournons le dos. Il faut donc un degré de foi de notre part pour que l'amour divin puisse faire son effet dans nos vies. Il faut ce degré de foi pour qu'une relation se crée, un début de contact, une approche qui ouvre le chemin à l'amour de Dieu. Mais certains vous diront, je suis croyant mais non pratiquant. Ce qui veut dire en français courant que je crois au cas où il existe quelque chose de divin, mais je ne pratique pas pour ne pas me mouiller, au cas où ce ne serait pas vérifié. Avec un tel raisonnement, Dieu ne peut rien pour cet individu. Blaise Pascal a dit ceci, c'est le cœur qui sent Dieu et non la raison. Voilà ce qu'est la foi, Dieu sensible au cœur. Pour bien comprendre ce sujet, voyons quelques définitions de la foi. Le Larousse est très explicite, j'aime bien. C'est une adhésion totale de l'homme à un idéal qui le dépasse. C'est une confiance absolue que l'on met en quelqu'un ou en quelque chose. Ou encore, la foi désigne l'état d'esprit qui conduit à croire une chose en l'absence de preuves. Et le dictionnaire biblique commence par citer ce verset que nous connaissons tous par cœur, Hébreux 11, 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il nous dit encore, la foi est l'attitude de l'homme qui accepte et tient pour vrai des réalités qui sont invisibles et incontrôlables. Ou encore, la foi est un acte par lequel l'homme s'en remet volontairement à Dieu, le reconnaissant comme fidèle et capable de tenir ses promesses. Alors avec ça, nous avons déjà de quoi faire. N'est-ce pas? Que pouvons-nous dire au sujet de cette foi utile pour être branché chez le Dieu de la Bible? En effet, Dieu se révèle à l'homme à travers trois axes. Nous avons déjà parlé naturellement dans l'Église de ces trois axes. Le premier, c'est la nature. Vous sortez de chez vous, vous ouvrez vos yeux, vous ouvrez vos oreilles, vous faites marcher vos sens. Et vous êtes en face de la création de ce que Dieu a fait. Et là, Dieu parle, si vous voulez bien. La deuxième, c'est la conscience. Cette petite voix au fond de notre cœur qui nous dit, tu penses que c'est bien ce que tu es en train de faire ou de penser? Et la troisième, c'est sa parole, l'Écriture, la Bible. Celui qui, malgré ces trois révélateurs, se détourne de Dieu est un homme qui a choisi délibérément de demeurer indépendant à son égard. Dieu ne peut rien donner à celui qui rejette cette grâce. Voilà une définition claire qui nous met en face de nos responsabilités. Mais comment vivre cette foi? Cette foi qui nous fait venir ce matin? Elle n'est ni mesurable, ni quantifiable, et pourtant, quand la Bible en parle, elle dit, des fois, gens de peu de foi. Ou nous lisons, manque de foi. Ou encore, augmente-nous la foi. Et enfin, de la foi comme un grain de sénévé. Il est vrai que nous avons des hauts et des bas dans notre foi, et je dirais que c'est normal. Mais il ne faut surtout pas confondre foi et croyance. Revenons à l'exemple cité tout à l'heure, « Je suis croyant, mais non pratiquant ». Ça, c'est de la pure croyance, qui est de nature purement intellectuelle. Et le dictionnaire nous donne une très bonne définition de cela. Il nous dit « La croyance est l'adhésion de la pensée aux faits historiques et surnaturels rapportés par la Bible. Mais elle n'implique pas la vie spirituelle ni le salut. Il n'y a donc aucune action et aucune relation possible. Au fond, ça ne sert à rien. C'est juste pour se donner peut-être bonne conscience. La foi, au contraire, la Bible nous dit, c'est un don de Dieu. Ça ne vient pas tout seul. Il faut recevoir ce don au travers de la nouvelle naissance. Et c'est Jean, dans son épître, dans son premier épître, au chapitre 5, au verset 1, il dit « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. » Cette nouvelle naissance provient de notre volonté à accepter sa grâce et son salut. Chers amis, ça, c'est Pâques. C'est la résurrection dans nos vies. Cette foi-là est une tranquille confiance en un Dieu réel, tout-puissant et proche, quoique invisible. Elle nous assure son amour et son salut. La foi est une démarche qui met en œuvre trois choses. Notre raison, nos sentiments et notre volonté. Alors premièrement, elle met en œuvre notre raison. C'est-à-dire que ce n'est pas une clé magique qui résoudrait toutes nos questions ou qui illuminerait d'un seul coup notre savoir. C'est à nous d'apprendre et réaliser que Dieu est créateur, libérateur, sauveur. Ce sont nos lectures de la parole et nos expériences journalières qui permettront cet apprentissage. Le verbe « croire » en latin se dit « credo ». Ce verbe a donné en français le mot « crédit », ce qui veut dire qu'à travers cet exercice de lecture et d'expérience, j'arrive à accorder du crédit à Dieu et à Jésus. Et nous réalisons alors que Dieu est à la source de la Bible, que Jésus nous révèle le Père, et que le Saint-Esprit nous révèle Jésus. Deuxièmement, la foi met en œuvre nos sentiments. Ça, c'est un peu délicat. Le mot « foi » en hébreu, donc, cette fois-ci, se dit « amen ». Mais il est aussi traduit par « confiance et fidélité ». Et là, je voudrais rappeler, mais dans une autre version, ce verset que nous avons lu pour définition, Hébreux 11.1. Écoutez bien. La foi est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de le posséder déjà par avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Je dirais petit à petit, notre foi est alimentée par cette confiance que nous ne connaissions pas auparavant. Cette foi confiante grandit lorsque nous vérifions la réalité des promesses de Dieu dans la Bible. Mais attention, que notre foi ne soit pas que sentimentale. La flamme du début d'une relation a besoin d'être ranimée et entretenue par la connaissance et la confiance. Une foi uniquement basée sur des sensations, des émotions et des expériences est aussi fragile que la foi basée uniquement sur le raisonnement. Et ces deux choses acquises nous permettent de mettre la foi en action. Ça s'appelle la foi met en œuvre notre volonté. Lorsque nous réalisons que la parole de Dieu est crédible, nous pouvons faire un pas de plus. Nous pouvons passer de la foi connaissance et de la foi confiance en la foi en action. Alors, quelques exemples, on pourrait en dire beaucoup. La foi en action, c'est la capacité, par exemple, d'arriver à pardonner. La foi en action, c'est se soucier du prochain. La foi en action, c'est aimer ceux qui ne nous aiment pas. La foi en action, c'est celle qui porte du fruit. Alors, je voudrais là citer un commentateur de la Bible québécois qui s'appelle Régent Laflamme. Il nous dit ceci. La foi chrétienne ne peut pas se garder pour soi. Elle n'est pas une religion parmi d'autres. Elle s'exprime avec assurance et conviction parce qu'il s'agit d'une question de vie et de mort éternelle. Sans l'imposer par la force, elle ne saurait être silencieuse. Elle vise à faire profiter le plus grand nombre du trésor infini qu'est la grâce de Dieu, le pardon de Dieu et la vie éternelle. Alors avec tout ça, comment ne pas avoir une crise de foi? Prenons l'exemple qui nous est donné dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, versets 19 à 29. Nous y découvrons là le vécu d'un homme qui s'appelle Thomas et qui a eu une crise de foi. Je lis le texte. Jean 20, 19. Ce même dimanche, dans la soirée, donc ça c'est après la résurrection de Jésus, les disciples étaient dans une maison dont ils avaient verrouillé les portes, parce qu'ils avaient peur des chefs des Juifs. Jésus vint, il se trouva là, au milieu d'eux, et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Tout en disant cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie parce qu'ils voyaient Jésus ressuscité. Que la paix soit avec vous, leur dit-il de nouveau. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après avoir dit cela, il souffla sur eux en disant, recevez le Saint-Esprit. L'un des 12, Thomas, n'était pas avec eux lors de la venue de Jésus. Les autres disciples lui dirent, nous avons vu le Seigneur. Mais Thomas répondit, « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, et si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, c'est fort, hein? Si je ne mets pas ma main aussi dans son côté, je ne croirai pas. » Crise de foi. 8 jours après, les disciples étaient de nouveau réunis dans la maison. Cette fois-ci, Thomas était avec eux. Jésus vint, alors que les portes étaient verrouillées, il se tint au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous !» Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt, vois mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Et là, il nous est pas dit que Thomas a mis les doigts et la main. Thomas est confondu. Il dit simplement, mon Seigneur et mon Dieu. Alors Jésus lui répond, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Thomas est un homme comme vous et moi. Et en face de Jésus, il est courageux. Il ne se cache pas. Il a bien remarqué qu'il avait douté de ce que les autres disciples avaient dit. Alors comment un homme comme Thomas, qui a vécu tous les miracles, toutes les guérisons diverses, les deux multiplications de pain, la résurrection de Lazare, il est surpris par le doute. Et pour mieux le connaître, ce Thomas, nous lisons un peu plus tôt dans ce même évangile de Jean au chapitre 11, nous lisons qu'il est prêt à mourir avec Jésus. Quand les sœurs Marie et Marthe font appel à Jésus parce que leur frère est mourant, Jésus reste encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Puis il dit à ses disciples, retournons en Judée. Maître, lui dirent les disciples, il n'y a pas si longtemps, ceux de la Judée voulaient te tuer à coups de pierre. Et maintenant, tu veux y retourner? Tous les disciples avaient peur. Et voilà ce que dit Thomas. Allons nous aussi afin de mourir avec lui. Quel courage! Je dirais même qu'il est téméraire. Il n'hésite pas devant les difficultés. Qui d'entre nous voudrait avoir un ami comme lui? Et un peu plus tard, au chapitre 14, encore Thomas. Après la résurrection, Jésus ayant annoncé sa mort, il leur dit que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu et ayez foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Mais vous connaissez le chemin de l'endroit où je me rends. Et grand silence, parce qu'aucun des disciples n'avait compris ce que Jésus voulait dire. Et là encore, c'est Thomas qui prend son courage à deux mains et dit, « Mais Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Et à travers ce courage, chers amis, il fait dire à Jésus cette phrase qui est marquée sur les murs de nos églises. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité à la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Oui, Thomas, courageux. Thomas qui sait dire ses doutes, son manque de foi. Mais qui d'entre nous n'a jamais eu de doute par rapport à l'Évangile? Lorsque nous doutons, nous nous écoutons nous-mêmes et ne comptons plus sur Dieu. Lorsque nous doutons, nous évaluons les probabilités de la réalité des promesses de Dieu. Et lorsque ce doute s'installe, il faut des preuves, comme Thomas. C'est très bien expliqué dans ce récit. Oui, alors comment nous pouvons nous poser la question, comment un disciple, ayant vu et vécu l'intimité avec Jésus, peut-il encore douter? Peut-être parce que le doute n'est pas en contradiction avec la foi. Ce n'est pas parce qu'il y a doute qu'il n'y a plus de foi. Chers amis, Dieu nous aime tous d'un même amour incommensurable. Il désire aider ceux qui lui apportent leur doute et leur manque de foi. Avec sa délicatesse divine, que nous lui connaissons, Jésus va engager avec nous un dialogue. Il va nous réhabiliter. Il va nous restaurer. Jamais il n'enfoncera un humain. Il nous aime trop pour nous accuser, nous accabler, nous démolir. Nous pourrions encore citer Pierre lorsqu'il a marché sur l'eau. Et quand il a regardé, la mer agitée, il a douté. Il s'est enfoncé. Et Jésus lui prend la main et dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Mais il ne l'a pas laissé s'enfoncer. Alors pour terminer aujourd'hui, j'aimerais nous rappeler ces quatre paroles fortes que Jésus a prononcées dans le texte. Que la paix soit avec vous. Je suis sûr qu'il a dit à Thomas que la paix soit avec toi. Et vous vous rendez compte, il a droit à la même parole que ceux qui étaient là la première fois. Jésus est en train de dire à Thomas, je t'aime autant que ceux qui étaient là la première fois. Deuxième parole, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Jésus nous propose de regarder les preuves de sa venue dans sa parole. Voyez-vous, je ne pense pas que Thomas ait touché les plaies de Jésus. Mais il s'est rendu compte ce que le doute représente pour Jésus. En réalité, lorsque nous doutons, nous voulons des preuves, nous l'avons déjà dit, et nous ravivons les blessures de Jésus. Troisième parole, ne sois pas incrédule, mais crois. C'est un ordre. Dépasse le stade de la vue et mets ta foi en action. Ce qui veut dire laisse le Saint-Esprit opérer en toi à travers les trois axes que nous avons cités, la création, la conscience et la Bible. Laisse le Saint-Esprit opérer chez toi. Il faut donc être présent au rendez-vous que Dieu nous propose. Vous avez bien fait de venir ce matin. Vous faites bien de venir demain matin à la prière, les études bibliques lorsqu'elles recommenceront. Ce qui nous amène naturellement à reconnaître Jésus comme notre Dieu et à l'adorer comme Thomas. Et la quatrième parole, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Bonheur et foi sont étroitement liés. C'est une béatitude que Jésus a prononcée pour répondre à Thomas, et elle est pour nous aujourd'hui. La Bible, elle nous dit, toutes ces choses ont été écrites afin que vous et moi croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, nous ayons la vie éternelle en son nom. Je vais terminer par un mot d'un commentateur de la Bible où j'ai malheureusement oublié le nom, j'ai oublié de le marquer. Il dit ceci, « Car le ciel sera rempli de pécheurs pardonnés, donc d'anciens incrédules, parvenus avec l'aide du Saint-Esprit aux glorieuses certitudes de la foi. » Courage ! Jésus nous dit ce matin, la paix soit avec vous. Amen.